Chers frères et sœurs, j'aimerais profiter de ce passage biblique que nous venons de lire, tout d'abord pour formuler quelques réflexions au sujet de la Bible, et puis ensuite pour essayer d'entendre un bout d'évangile dans cet épisode qui, à première vue, n'a quand même pas grand-chose d'une bonne nouvelle. S'agissant de la Bible, il nous appartient de réaliser à quel point ce passage biblique est une fiction théologique. Je veux dire par là que les théologiens qui ont rédigé ce passage biblique l'ont fait non pour dire comment les choses se sont passées à la mort du roi Salomon en 931 avant notre ère, mais pour offrir un enseignement à caractère universel, un enseignement capable de nous aider à mieux comprendre ce qu'est la vie et peut-être nous aider à mieux vivre. Une fiction composée par des théologiens, c'est un récit qui ne cherche pas à reconstituer l'histoire telle qu'elle s'est passée à un moment donné, mais un récit qui présente des aspects de la vie qui nous préparent à réagir dans l'hypothèse où nous serions concernés par ce type de situation. Ainsi, en 931, à la mort présumée de Salomon, l'état de la société hébraïque n'est pas ce qu'elle est, tel que nous en parlent les textes du premier livre des Rois. L'archéologie a mis en évidence qu'à cette époque, il n'y avait pas de royaume réunissant le nord et le sud, qui auraient été dirigés depuis la capitale Jérusalem. Jérusalem et le royaume du sud n'étaient à l'époque qu'une sorte de postillon. C'est le nord, les hautes terres du nord, qui sont beaucoup plus développées, et il n'y aura vraiment d'administration centrale que sous le règne du roi Omri, vers moins 800. À cette époque, il n'y a même pas d'écriture hébraïque. Les premiers textes qui seront découverts datent justement de cette époque de moins 800. Il n'y avait à cette époque ni le temple qui est décrit dans le premier livre des Rois, ni le faste de la cour, et la fin calamiteuse du roi Salomon, tel que vous pourrez la lire chez vous tranquillement, puisque vous n'irez pas à la plage cet après-midi, a été rédigé après l'exil à Babylone. Cette fin calamiteuse a été rédigée pour montrer la responsabilité de la royauté dans la chute de Jérusalem. Et le chapitre 12 a été composé dans la foulée pour montrer les méfaits d'un usage de la royauté et plus précisément du pouvoir, qui était contraire à la vision théologique des auteurs de ce passage, qui font partie des rédacteurs qu'on nomme deutéronomistes, en rapport avec l'idéal de société rédigé dans le livre biblique intitulé Deutéronome. Il y a d'ailleurs, dans ces passages du livre des Rois, des contradictions, des tensions internes qui montrent que tout cela n'a pas été écrit en une seule fois. L'analyse de ces textes montre qu'une première étape de la rédaction se passait à l'époque du roi Josias, dans le cadre qu'on appelle la réforme deutéronomiste de Josias. C'était des textes qui étaient très favorables à la royauté, très favorables à l'action de Josias, qui voulait agrandir son royaume et en quelque sorte établir des frontières qui seraient celles que les rédacteurs allaient écrire dans ces textes, en les faisant remonter à David et Salomon, pour donner un enracinement historiographique. Et puis la catastrophe de Jérusalem, l'exil, ont fait dire à leurs successeurs qu'en fait, la royauté était comme le fruit dans lequel il y avait un ver. Et ils ont reconsidéré la royauté au regard de l'histoire et ils ont inversé la polarité de ces textes pour intégrer des éléments anti-monarchiques qui allaient permettre de repenser la question de l'autorité politique par rapport aux fins, par rapport aux finalités. Alors, en disant cela, je ne dévalue nullement le texte biblique, bien au contraire. Rédiger ce passage biblique tel que je vous en parle, ce n'est pas écrire l'histoire du peuple hébreu. Si c'était le cas, effectivement, ce serait une très mauvaise histoire. C'est écrire une histoire qui peut nous aider, comme elle peut aider chaque peuple, à penser son avenir. Et au fond, si nous étions de l'autre côté de la Manche, nous ferions la distinction entre « history » et « story ». Et nous, nous avons « histoire » et « histoire ». C'est peut-être là qu'est l'ambiguïté. Rédiger une histoire qui nous aide à penser l'avenir, rédiger une histoire qui nous aide à orienter notre vie vers ce qu'il y a d'ultime, vers Dieu, voilà une réalisation tout à fait honorable, même si ce n'est pas rédiger l'histoire telle qu'elle a eu lieu. Et si nous regardons le contenu de ce passage biblique, nous comprenons qu'il est question de séparation entre le nord et le sud. On appelle cela souvent le schisme. Et jusque-là, ces deux royaumes étaient réunis en un seul royaume. Cette séparation se fait en raison de la pression fiscale qui est réalisée par le pouvoir central à Jérusalem, la capitale. Elle est exercée de manière abusive par le roi. Les tribus du Nord, n'obtenant pas satisfaction de la cour royale, comme vous l'avez entendu, elles vont décider de prendre leur distance et déclarent, je cite, « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, les tribus du Nord, maintenant pourvois à ta maison David, le royaume du Sud. » Autrement dit, débrouille-toi sans nous. Et ils vont s'organiser de leur côté en faisant de Jéroboam leur roi. Notez qu'ils auraient tout aussi bien pu dire, lorsque dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre parmi les puissances de la terre la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature leur donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation. Mais voilà, ce n'est pas le rédacteur de Deutéronomis qui a écrit ce que je viens de vous dire, c'est Thomas Jefferson qui le rédigea en vue de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique le 4 juillet 1776. Et le texte continue avec les phrases que nous avons entendues au moment de l'annonce de la grâce. Le premier livre des Rois, au chapitre 12, est une fiction théologique qui donne matière à penser et qui nous permet de comprendre les ressorts de l'indépendance américaine décidée à l'unanimité des 13 États réunis en Congrès. Ce sont ces ressorts que j'aimerais reprendre avec vous pour entendre en filigrane l'évangile de ce texte, à savoir l'indépendance. L'indépendance comme bonne nouvelle biblique pour nous. Le premier point, c'est la question de la servitude. Le déclencheur de l'indépendance américaine et le déclencheur de l'indépendance du Royaume du Nord sont les mêmes. La servitude, le joug qui pèse sur la population. Le Congrès américain se plaint de ne pas être convenablement représenté au Parlement britannique alors qu'il paie pourtant des impôts, et pas qu'un peu. Il se plaint par ailleurs d'être bridé dans son développement, dans son organisation, et de ne pas être protégé en retour par la couronne britannique, bien au contraire. Les deux cas sont en résonance avec la situation du peuple hébreu en Égypte, notez-le bien. Soumis à la servitude, soumis à la corvée, c'est le même terme. Et alors la question qui se pose pour tous ces peuples, c'est le roi, ne serait-il pas un nouveau pharaon ? Et c'est ce que demande le verset 4, qui reprend le début du livre de l'Exode. Je vous relis ce verset 4. Ton père a rendu notre joug bien dur, toi maintenant, allège la dure servitude venant de ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous. Et nous servirons, ajoute-t-il. Comme dans le livre de l'Exode, ils avaient bien l'intention de servir l'Éternel. Ce texte nous dit que oui, Roboam est bien un nouveau pharaon. C'est ce que dira le verset 21, quand il rassemblera les tribus de Juda et de Benjamin pour aller combattre la maison d'Israël, à la manière du pharaon en Exode chapitre 14, versets 5 et 7. Ce qui est en jeu, c'est la liberté accordée ou non au peuple. Les contributions sont-elles approuvées par le peuple ? Sont-elles volontaires ou obligatoires ? Quelle est la part que chacun prend dans la conduite des affaires du pays ? Sommes-nous reconnus dans notre capacité à nous prononcer sur l'avenir ? Ici, Roboam s'avère être comme le pharaon. Le texte précise qu'il n'écouta pas le peuple, comme le pharaon n'écouta pas Moïse, le porte-parole du peuple. Et comme la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique rappelle à quel point la couronne britannique est sourde. Ainsi, ce chapitre 12 du Livre des Rois met en scène différents groupes de personnages qui nous font penser à la différence qu'il peut y avoir entre service et servitude, qui nous font penser à la place que nous accordons à l'adhésion personnelle à un projet de société et à la liberté que nous pouvons continuer à manifester dans l'organisation d'une société. Roboam rendra impossible la liberté qui avait été accordée par Dieu au peuple lors de l'Exode. Et symboliquement, il fera revenir le peuple au temps de l'esclavage. Ce qui est aussi une manière de répondre à l'avertissement qui avait été formulé par le prophète Samuel au chapitre 8 du premier livre de Samuel. Lorsque le peuple, justement, qui jusque-là avait des juges, demande un roi comme les autres nations. Et Samuel répondit au peuple par les droits du roi, en leur expliquant qu'il leur prendrait non seulement les terres, les récoltes, mais aussi les enfants, les filles et tout ce qu'ils ont. Eh bien, c'est effectivement ce qui se réalise. La boucle est bouclée. Ce deuxième rédacteur deutéronomiste montre que le principe même de ce pouvoir fait que toute personne prenant ses responsabilités politiques devient corrompu. Parce qu'il considère que le peuple est à son service, au service de la cour. Et dans la version ancienne de la Septante, la traduction grecque, on précise même que Salomon alourdissait les aliments de sa table. Autrement dit, que les impôts permettaient d'assurer les frais de bouche pharaoniques. L'intervention du prophète de Dieu pour empêcher Roboam de livrer la guerre aux tribus du Nord légitime l'indépendance de ces tribus, qui vont donc être autorisées à prendre leur destin en main et à établir une justice sociale qui jusque-là faisait défaut. Ce sujet de la servitude me conduit au deuxième aspect que pose ce texte biblique, le phénomène de cour. Ce texte met clairement en opposition les anciens du peuple et les enfants qui vont être consultés par Roboam. C'est d'ailleurs ce que l'on trouve aussi dans un autre texte très ancien, l'épopée de Gilgamesh. Les anciens ont acquis l'expérience du règne de Salomon. Ils ont eu le temps d'analyser les bienfaits et les méfaits du mode de gouvernement qu'ils avaient sous les yeux. Ils sont en capacité de se faire un jugement sur la manière de gérer les affaires publiques. Les enfants, eux, ont été élevés avec Roboam à la cour royale. Ce sont ses camarades, ses amis. Ils ont bénéficié de la même éducation. Ils vivent dans le même environnement. Leurs intérêts sont les mêmes. Ils expriment parfaitement le problème du phénomène de cour, l'absence totale d'altérité. Il n'y a finalement pas une feuille de papier cigarette qui peut s'immiscer entre ce que pense Roboam et ce que pensent les enfants. En interrogeant des gens qui pensent comme lui, au fond, Roboam n'interroge personne. Et c'est exactement ce qu'avait fait le Pharaon en Exode 5. Ainsi, le phénomène de cour consiste à rassembler des personnes qui ont été formées ensemble et qui produisent donc ce qu'on appelle de la pensée unique. Ils pensent de manière similaire. Et à ce phénomène de cour qui produit de la pensée unique, nous pourrions ajouter que tous ces courtisans dépendent du monarque, ce qui les retient d'exprimer le moindre avis contraire, mais d'être plutôt dans la flatterie, de dire au monarque ce qu'ils estiment que le monarque a envie d'entendre, sans quoi ils craignent de perdre leur faveur, leur position sociale, si ce n'est la crainte de perdre la vie. C'est ce qui s'était passé au début du règne de Salomon. Tous les opposants avaient été liquidés. Le phénomène de cour conduit les courtisans à renforcer un pouvoir sans lequel ils ne seraient rien. Je l'ai indiqué, la réflexion des anciens s'articule autour du service et de la servitude. La réflexion des enfants s'articule autour du rapport père-fils. Chacun a les questions de son âge. Les anciens se disent que si le roi rend service au peuple, alors le peuple sera disposé à rendre service au roi et donc au pays. Ce qui est clair, c'est que les enfants n'ont pas encore réglé leurs problèmes personnels, et pas plus que les enfants. Roboam n'a pas du tout intégré la question du père dans son équation personnelle, puisque lorsqu'il pose la question de savoir ce qu'il convient de répondre au père, au peuple, contrairement à ce qu'il avait dit aux anciens, je vous redis ce qu'il avait dit aux anciens au verset 6, le roi prit conseil aux anciens qui s'étaient tenus auprès de son père Salomon pendant sa vie, et il dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Ils lui adressèrent la parole en ces termes, « Si aujourd'hui, etc., etc. » Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? En revanche, quand il s'adresse aux enfants, il leur dit ceci, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug de ton père, celui qui l'a mis sur nous. » Quand il s'adresse aux enfants, Roboam parle du père. Il intègre le père dans son équation parce que, justement, cela lui pose problème, alors qu'il n'est pas du tout question du père avec les anciens. Au lieu de penser l'intérêt général, les enfants vont du coup penser leur intérêt particulier, leur relation au père, et ils vont régler leurs problèmes d'identité personnelle sur le dos du peuple. C'est là une grande leçon que nous devrions tirer. Ne jamais donner des responsabilités à quelqu'un qui n'a pas encore réglé ses problèmes personnels. Sans quoi, la vie devient une épreuve de force, un concours de celui qui a le plus gros petit doigt. C'est une métaphore dans le texte biblique. Les anciens envisagent la vie commune sous l'angle du service mutuel. Les enfants envisagent la vie commune sous l'angle de la domination. C'est l'intransigeance de Roboam, son absence d'empathie, son absence totale d'amour du prochain qui conduit au schisme, à l'indépendance du royaume du Nord qui, je le répète, est un anachronisme, car à l'époque, c'est le royaume du Nord qui était bien plus puissant que la zone Sud. Peu importe cet aspect historique, puisque nous avons affaire à un texte théologique qui rappelle l'importance qu'il y a à conduire ses affaires selon la logique de l'amour et non selon la logique de l'intérêt personnel. Et vous voyez, même si nous mettons le profit comme critère d'une vie réussie, eh bien conduire nos affaires professionnelles en étant guidés par l'amour du prochain nous conduit au bout du compte, d'un point de vue théologique, à un profit supérieur. Le calcul de Roboam est un mauvais calcul. Le calcul de l'intérêt personnel est un mauvais calcul. Le calcul de l'intérêt général est un bien meilleur calcul. Parce qu'au lieu de régner sur tout Israël, Roboam ne règnera que sur deux malheureuses petites tribus. Et encore, c'est parce que le deuxième rédacteur lui accorde la tribu de Benjamin, qu'il n'a même pas dans la couche première où il n'est question que de Juda. Ou pour reprendre une image développée au chapitre 11, il n'aura plus que deux bouts d'un manteau totalement déchiré, deux malheureux bouts de manteau, alors que Jéroboam aura les 10 autres pièces. Il y a là un mauvais calcul à moyen terme que les théologiens rappellent et qu'ils devraient toujours rappeler en toutes circonstances et qui peut rendre service à ceux qui pensent pouvoir instaurer un régime politique autoritaire pour le grand bien du pays. La maximisation des contraintes, qu'elles soient administratives, fiscales ou législatives, on peut en concevoir d'autres, produit une réduction de l'activité et une perte de profit. C'est contre cela que les tribus du Nord se révoltent. Et notons bien qu'elles ne se révoltent pas pour obtenir des faveurs, pour avoir les mêmes avantages que ceux qui sont à la cour, pour avoir eux aussi leur part du gâteau. Les tribus du Nord se révoltent comme se révolteront les 13 États américains en prenant leurs responsabilités, en déclarant leur indépendance, en faisant le choix de la liberté de donner du sens plus juste à leur avenir. Cette fiction théologique qui s'achève sur la déclaration que tout cela arrive d'une manière fidèle à l'espérance de Dieu montre qu'il n'y a pas de fatalité dans l'ordre social ou politique. Comme l'indiquera l'Exode, il n'est pas d'impasse de l'histoire qui ne saurait résister à l'appel à la liberté que Dieu fait souffler sur notre monde. Ou, pour le dire encore avec les mots du 4 juillet 1776, en conséquence, nous, les représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en congrès général, prenant à témoin le juge suprême de l'univers, de la droiture de nos intentions, nous publions et déclarons solennellement au nom et par l'autorité du bon peuple de ces colonies que ces colonies unies sont et ont le droit d'être des États libres et indépendants, qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la couronne de la Grande-Bretagne, que tout lien politique entre elles et l'État de la Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous, que comme les États libres et indépendants, elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer le commerce et de faire tous autres actes ou choses que les États indépendants ont droit de faire. Et plein d'une ferme confiance dans la protection de la divine providence, nous engageons mutuellement au soutien de cette déclaration nos vies, nos fortunes et notre bien le plus sacré, l'honneur. Amen.